Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à cette émission d'Un jour dans l'histoire. Notre dernière émission était consacrée à Saint Remi, à son histoire et son rôle au 5e et 6e siècle. J'ai souhaité, en invitant Marie-Céline Isaïa, que nous sortions en quelque sorte de l'image d'Épinal du baptême de Clovis, courbe la tête fière sicambre. Image s'il en est de propagande qui, dans nos mémoires, a attribué une vision politique et religieuse de l'avenir du royaume franc que l'archevêque de Reims n'a pas vraiment cultivé. Il s'agissait simplement donc de reprendre la vie de Saint Remi, qui n'est pas sorti du néant en 496 à l'occasion du baptême du roi des Francs. Eh bien, je souhaiterais réaliser le même exercice aujourd'hui avec un tout autre personnage dont l'image, pour le coup, est beaucoup plus négative que celle de Remi à Reims, puisqu'il s'agit de Pierre Cochon. Là encore, Pierre Cochon n'est pas sorti du néant en cette année 1431 qui vit l'arrestation, le procès et enfin la mort de Jeanne d'Arc sur le bûcher de Rouen. L'image de l'évêque de Beauvais, effectivement, n'est pas réductible au doigt accusateur pointé vers la relapse Jeanne de Don Rémy, Jeanne qui revêtit des habits d'homme, reniant ainsi sa signature. Qui était Pierre Cochon? Quelle était sa formation, son cursus? Quel était le milieu dans lequel il évoluait? Quel fut son rôle politique et religieux, notamment dans le cadre de l'université? Enfin, quelle part de responsabilité peut-on lui attribuer dans le procès de 1431? Autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui avec Jean Favier. Jean Favier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes venu à plusieurs reprises à ce micro pour nous parler de nombreux sujets. Je renvoie nos auditeurs à la médiathèque de Canal Académie. Et vous venez de publier chez Fayard, chez votre éditeur, Pierre Cochon, comment on devient le juge de Jeanne d'Arc. Alors, d'emblée, vous l'expliquez, l'historien est confronté au fond à deux écueils. Le premier écueil, ça serait tout d'abord l'anachronisme. Et au fond, Remi en a été la victime et Cochon en sera également la victime, et également un deuxième écueil qui est l'oubli du contexte.
Oui, j'ai voulu montrer que Cochon n'est pas un être abject qui apparaît sur cette terre, si je puis dire, et dans l'histoire, parce qu'enfin il est déjà évêque, à la fin de l'année 1430, et qui, 6 mois plus tard, est sorti de l'histoire. Cochon, il est à la fois un homme qui a un passé, il a 60 ans à ce moment-là. C'est un homme qui a déjà joué un rôle important dans l'université, il a été recteur, dans l'église, il est évêque, dans le royaume, il est conseiller du roi Lancastre, mais à Paris, le roi, c'est le Lancastre. Donc, c'est un homme qui ne sort pas du néant, et deuxièmement, il n'est pas sorti tout seul. Et si j'ai intitulé ce livre Pierre Cochon, pour qu'on sache de quoi je parle, j'attache beaucoup de prix au sous-titre. Le sous-titre, comment on devient le juge de Jeanne d'Arc. Le mot essentiel, c'est comment on devient.
Bien évidemment.
Parce que j'ai voulu montrer que cet engagement qui fait de Cochon, dans les dernières heures ou dans les derniers jours de la vie de Jeanne d'Arc, un homme assez méprisable, un homme de paille, un homme qui est prêt à n'importe quoi pour sauver sa mise, c'est-à-dire sa situation, pour rester conseiller du roi. Cet homme-là, il a commencé bien différemment, mais dans un milieu entièrement bouleversé. Imaginez qu'il a 8 ans quand l'Église se retrouve avec 2 papes. On n'avait jamais vu ça aussi longtemps, car ça dure. Un schisme de quelques heures ou de quelques jours, on a déjà vu, et même de quelques années. Celui-là va durer 30 ans. Le monde va se diviser. Et la question va commencer de se poser dès les premiers mois. Lequel est le bon? Est-ce que c'est le nôtre ou est-ce que c'est celui d'en face? Première question. Dans ces cas-là, on se tourne vers qui? Pour savoir lequel des papes est le bon, on interroge des théologiens et des juristes de droit canonique. Ces gens-là avaient l'habitude de donner des cours, d'enseigner la théologie, d'enseigner le droit canonique, éventuellement de donner leur avis sur le thomisme, sur l'aristotélisme chrétien, de donner leur avis sur l'Immaculée Conception, mais ils n'avaient pas l'habitude qu'on leur demande « il y a 2 papes, c'est lequel le bon ?» Et puis survient une minorité royale. C'est la première fois depuis Saint-Louis, mais Saint-Louis, il y avait une maîtresse-femme. Et oui, c'était Blanche de Castille. Tandis que là, il n'y a pas de maîtresse-femme. Le jeune Charles VI, sa mère est morte. Quand son père meurt, il est seul. C'est-à-dire que les oncles prennent le pouvoir, se mettent au pouvoir à sa place. Et puis lui-même, très vite, à peine s'est-il dégagé de ses oncles, que, vous le savez, ce n'est pas un mystère d'histoire de France, il devient fou. Et par conséquent, une nouvelle question va se poser. Quelle position prendre par rapport à un roi qui ne gouverne plus, qui est toujours le roi, toujours celui qui a reçu l'onction sacrée à Reims, mais qui n'est plus en état de présider le Conseil, ou qu'il l'est de temps en temps, et puis pas le lendemain. Alors, autour de lui, naturellement, on va s'arracher le pouvoir. Parce que quand les ducs étaient régents pour un enfant mineur, ils savaient que ça finirait. Là, ils savent que ça ne finira qu'à la mort du roi. Et par conséquent, on s'arrache les pouvoirs, le duc de Bourgogne d'un côté, le duc d'Orléans de l'autre. Le duc de Bourgogne, c'est l'oncle du roi, le frère de Charles V. Le duc d'Orléans, c'est le frère de Charles VI. Son arrivée sur le terrain, si je puis dire, met une nouvelle donne, parce que les ducs, oncles du roi, étaient tout puissants, mais le frère du roi, il est plus proche qu'eux. Et par conséquent, vous le savez, ça va s'achever par l'assassinat du duc d'Orléans sur ordre du duc de Bourgogne, puis par l'assassinat du duc de Bourgogne, le suivant d'ailleurs, par ordre des sectateurs du duc d'Orléans et du futur Charles VII. Résultat des opérations. Eh bien, le jeune duc de Bourgogne, il avait pris la suite de son père. Comme il était de moins en moins puissant au pouvoir au temps du duc d'Orléans, il a prôné des réformes. Que voulez-vous que des universitaires qui veulent remédier au drame de l'Église par des réformes de l'Église? Et il y en a besoin. Vous savez, quand un même clerc est à la fois chanoine dans 6 diocèses, archidiacre dans un autre, uniquement pour en avoir les revenus, il y a besoin de réformes. Il a prêché la réforme dans le royaume, parce que dans le royaume, il y a une certaine gabegie. Et par conséquent, quand le duc de Bourgogne se retrouve seul, après l'assassinat de son père, et qu'il ne trouve d'autre allié que l'Anglais qui vient d'arriver, l'Anglais qui vient d'envahir, qui est un ennemi, qui est un occupant. Il n'a pas d'autre alliance possible. Et vous voyez des gens qui ont pris le parti de Bourgogne parce qu'ils étaient pour la réforme, et ils étaient pour la réforme pour sauver l'Église et sauver le royaume, se retrouvent dans un parti anglo-bourguignon. Alors tant qu'il est anglo-bourguignon, pour de bon, ils se sentent les partisans du duc de Bourgogne, les partisans d'un roi de France, c'est Henri VI, Henri V d'abord, mais très peu de temps, et Henri VI, dont je rappelle quand même que ce n'est pas la première fois dans l'histoire du monde qu'un roi a comme successeur son gendre et non pas son fils. Par conséquent, ça n'a pas bouleversé le monde. C'est après qu'on invente la loi salique. Hein. À ce moment-là, dans le drame complet de la nation, les gens qui se sont assassinés, les ducs qui s'assassinent les uns les autres, rien n'est plus anormal parce que rien n'est normal. Et voilà donc un cochon qui est là, mais qui est l'émanation d'un milieu. Ce milieu, ce sont les universitaires.
Alors précisément, Jean Favier, ce que vous décrivez là, c'est cette tourmente, hein, c'est l'objet de toute votre deuxième partie.
J'ai appelé mon livre « Les maîtres dans la tourmente ». Et le mot « tourmente » revient plusieurs fois dans le livre. J'ai renoncé à « Les maîtres dans la tourmente » parce que j'avais peur que le public ne comprenne pas toujours ce que ça voulait dire. Il aurait compris qu'à la fin du livre, il n'aurait pas lu le livre s'il n'avait pas compris le titre. Mais, et, si vous voulez, il y a eu une tourmente générale, le monde marche la tête en bas. Et par conséquent, je ne dirais pas qu'on improvise, mais tout devient possible. Et qu'un évêque devienne conseiller du roi, que cet évêque soit chargé de missions diplomatiques, etc., qu'il s'engage, qu'au concile de Constance, il prenne des positions, ça n'a rien d'anormal dès lors que tout marche la tête en bas. Alors, ne pas s'étonner grandement. Si Cochon n'est pas seul, il y a un certain nombre d'autres maîtres. Il est le juge, le premier juge de Jeanne. Donc c'est lui qu'on verra le plus. Mais les autres sont à côté de lui, y compris certains grands théologiens. Quand on demande l'avis de la Sorbonne sur les propos prêtés à Jeanne, mais ces gens-là s'engagent. Passons outre au procès, si vous voulez, j'y reviendrai. Mais il faut bien dire que Cochon a payé très cher une chose, il est mort avant le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc. Au procès de réhabilitation, tous ceux qui avaient trempé dans l'affaire avaient perdu la mémoire. Aucun ne se souvenait plus de rien, sauf d'une chose, c'était pas nous, c'était Cochon, puisque comme il est mort, il sera plus là pour protester. On lui a fait endosser tout ce qui avait été finalement un crime, ou à tout le moins une très mauvaise action collective.
Alors, nous allons revenir sur cette fameuse responsabilité, mais avant tout, toute votre première partie est consacré à ce monde universitaire et à sa place.
Quelle se fait la grosse tête ? Parce qu'on leur demande leur avis sur tout et maintenant, quand on ne leur demande pas, ils le donnent.
Alors, précisément, est-ce que vous pourriez davantage décrire ce monde, son importance, son organisation ?
Pour l'essentiel, j'ai beaucoup insisté là-dessus d'un point de vue topographique parce que mon lecteur a besoin de savoir où ça se situe. Mais pour l'essentiel, c'est la rive gauche de Paris. C'est un monde universitaire qui est déjà bouleversé par des tensions internes, bouleversé par des ambitions. Quand vous pensez qu'il doit y avoir à peu près 10 000 étudiants qui sont en train de finir des études ratées et quelques-uns qui vont s'en sortir, ça fait beaucoup de traîne savate. François Villon n'est que l'un d'entre eux. C'est le seul qui a eu du génie pour nous dire ce qu'il était, mais ce n'est pas le seul raté de son époque. Alors, vous voyez, dans ces conditions-là, il est arrivé un phénomène extraordinairement nouveau. C'est l'apparition d'un personnage qu'on n'avait jamais vu intervenir lui-même dans l'histoire, c'est Dieu. On avait vu des crises. L'empereur contre le pape contre un roi contre son archevêque, je pense à Thomas Becket. On n'avait jamais vu une fille qui ne sait pas lire et écrire, qui est d'origine très modeste. Attention, c'est pas une mendiante, hein, elle est la fille d'un paysan aisé qui est propriétaire et qui a ses chevaux. Si elle sait monter à cheval, c'est qu'elle l'a fait toute son enfance. Mais voilà, une simple fille, habilitée par personne, qui arrive à la cour du roi, qui dit « De la part de Dieu, je viens de vous dire que... » Pour ceux qui sont dans le camp adverse, c'est-à-dire Cochon, c'est-à-dire tous ceux qui sont restés à Paris au moment de la coupure du royaume en deux. Je voudrais rappeler que si les Anglais rigolent à la santé du roi de Bourges, Charles VII a un royaume plus grand que celui du Lancastre. Il n'est pas roi à Bourges, il est roi également à Tours, à Poitiers, à Toulouse, à Lyon, à Montpellier. Charles VII a un véritable royaume. Alors, voilà une fille qui dit « Je viens de la part de Dieu ». Et par conséquent, tous ceux qui sont de l'autre côté, ils commencent à tendre le dos. Si on sentait le coup monter, mais on ne le sent pas. Et puis quand même, il y a des succès. Il y a Orléans. Elle dit « Je viens de la part de Dieu » et elle remporte Orléans. Elle dit « Je viens de la part de Dieu », mais elle fait sacrer son roi à Reims alors que l'autre n'arriva qu'à se faire sacrer médiocrement à Paris. Et par conséquent, aux yeux de tous, on ne peut pas dire « C'est une farceuse ». On se dit « Mais attention, qu'est-ce qui se passe ?» Les Anglais disent « C'est une sorcière ». Charles VII Prudent l'avait fait expertiser. Elle n'est pas sorcière puisqu'elle est vierge. Donc en conséquence, voilà un personnage nouveau dans l'histoire. C'est Dieu et pour un cochon, comme pour les autres. Je vous l'ai dit, il n'est pas seul dans l'affaire. Tout ça ramène maintenant à une question. Suis-je, moi, évêque, théologien, conseiller du roi de France, en train de me battre contre Dieu? Si moi, en 1430, je me bats contre Dieu, à l'âge de 60 ans, ça fait 50 ans que je suis un pécheur en état de péché mortel. Alors, que veut Cochon? Que veulent les maîtres? Qu'elles se désavouent. Qu'elles disent « j'ai menti, j'ai tout inventé, je suis une farceuse ». Qu'elles disent « je suis, à la rigueur qu'on la traite, le mot n'existait pas à l'époque, mais de psychopathe ». Mais surtout pas qu'elle meure en n'ayant pas dit qu'elle se désavoue. Et l'on voit jusqu'à la fin du procès, moins 3 jours, Pierre Cochon et les maîtres s'appliquaient à une chose, qu'elle craque et qu'elle avoue. Toutes les questions stupides qu'on lui pose, est-ce que la couronne qu'a portée Saint-Michel, elle sentait bon? Mais ces questions, ces gens-là ne sont pas assez bêtes pour poser des questions bêtes, sauf qu'ils veulent la faire craquer. Alors on lui repose 20 fois de suite la même question, 10 fois on lui demande de prêter serment, il dit « j'ai déjà prêté serment une fois, ça suffit, vous me chargez trop », dit-elle au tribunal. Mais ils veulent qu'un beau jour, elle perde ses moyens, et c'est ce qui arrive au cimetière Saint-Ouen. Elle dit, finalement, je me désavoue, tout ça c'est faux, mes voix, je ne les ai pas entendues. La Cochon a gagné. Au regard de sa conscience, cette fille ne venait pas de la part de Dieu. Simplement, le lendemain, Jeanne se dit qu'elle a menti. Se dit qu'elle a manqué à sa mission divine. Les Anglais lui tendent une perche, ils lui tendent les vêtements d'homme. Elle revient à ce qui n'est pas un péché, mais c'est une faute contre la discipline, et on lui avait demandé d'y renoncer. Donc, elle revient à des mauvais comportements. Et par conséquent, cette fois, l'Anglais a gagné, l'Anglais qui voulait tant qu'elle soit tuée, qu'elle soit brûlée, parce que se disent-ils, tant qu'elle restera en vie, même en prison, elle peut nous jeter des sorts. Et l'Anglais ne peut pas ne pas constater que depuis qu'elle est apparue, la position de l'Anglais dans le nord de la France a quand même singulièrement perdu ses dimensions des années 1420. Par conséquent, l'Anglais lui veut qu'elle meure pour ne plus jeter de sorts, Cochon voulait qu'elle se désavoue, et finalement, elle ne se désavoue pas. Finalement, s'étant désavouée, elle revient, alors elle est relapse, là le bûcher est automatique. Elle ne peut pas y échapper. Mais Cochon aura finalement perdu son pari à cela près. Que dans les derniers moments, il ne peut pas ne pas se dire ça, c'est moi qui le pense, je ne peux pas le prouver. Mais étant donné tout ce qu'il a fait pour qu'elle ne soit pas la fille protégée de Dieu, quand on la mène au bûcher, ce qu'il ne voulait pas, il ne peut pas ne pas se dire, après tout, si elle venait de la part de Dieu, il va la sauver. Il ne la sauve pas, donc j'ai gagné. Je ne suis pas battu contre Dieu.
C'est une forme d'ordalie.
C'est une forme très marquée d'ordalie, vous avez raison à 100%. C'est une forme de jugement de Dieu. C'est un pari aussi. Et là, il n'y a aucun doute, Cochon jette un pari à Dieu. Si vraiment tu es derrière, montre-le. Il faut bien voir
Dieu,
que ces gens-là ne sont pas nés pour être dans l'infamie. Ils y arrivent, mais ils n'ont pas envie d'y être. Ils aimeraient mieux. Cochon a sa conscience pour lui. Il l'aurait encore plus si Jeanne s'était désavouée. N'oubliez pas une chose, Cochon, ensuite, il n'était plus évêque de Beauvais parce que Beauvais était roi au Valois, et on lui a donné l'évêché de Lisieux qui n'est pas médiocre. Il y a laissé une excellente réputation de très bon évêque, d'homme généreux, tout ce que vous voulez.
En fait, l'apport de votre livre, c'est de montrer aussi tout ce rôle diplomatique qu'a pu avoir Cochon. Il était au traité de Troyes, il était au concile de Constance.
C'est pas un vilain clerc qui apparaît dans un coin et qui vient faire le mauvais bonhomme. À la limite, je serais tenté de vous dire, l'apparition est beaucoup moins brutale que celle de Savonarole dans quelque temps. Bon, Savonarole, tout d'un coup, c'est un frère mineur qui apparaît et qui commence à tout casser. Là, c'est pas le cas. C'est quelqu'un qu'on a vu monter en grade. Dès sa jeunesse, dès qu'il était un jeune gradué, il n'a jamais fini ses études de théologie. Il est licencié en droit. Mais un jeune gradué qui a été 2 fois élu recteur de l'université. Il avait donc la confiance de ses pairs. Et puis, il devient l'un des hommes à tout faire. Mais tous sont des hommes à tout faire. C'est pas un roi qui va à toutes les négociations. Ça n'est pas un roi qui décide de tout. Par conséquent, il est au conseil du roi. Il était au conseil du duc de Bourgogne. Je vous ai dit pourquoi. Il est au conseil du roi. Et alors, il lui arrivera 2 malheurs. L'un, c'est de mourir avant le procès de Jeanne d'Arc. Et donc, de porter tous les péchés du monde. Et l'autre malheur, c'est la réconciliation après. Mais la réconciliation en 1435 du roi de France et du duc de Bourgogne, parce qu'à ce moment-là, ceux qui ont servi le parti qui était anglo-bourguignon sont des traîtres qui n'ont servi que le parti de l'occupant anglais. Il n'y a plus de parti bourguignon.
Jean-Favier, nous retrouvons dans un instant.
L'élargissement géographique de l'Union européenne a-t-il empêché l'élargissement de ses compétences ? Le nombre et l'hétérogénéité des États membres rendent en effet difficiles les progrès de la construction européenne dans certains domaines. Pour éviter les blocages, une solution possible est le développement de coopérations spécialisées entre certains États membres autour d'objectifs précis. Écoutez les explications du sénateur Pierre Fauchon, auteur d'un rapport d'information adopté le 3 mars 2009 par la Commission des Affaires européennes du Sénat. Une émission éclairage, les rapports du Sénat, à télécharger sur canalacademy.com.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à Pierre Cochon. Pierre Cochon, comment on devient le juge de Jeanne d'Arc ? C'est le livre de Jean Favier que je reçois à ce micro, un livre paru aux éditions Fayard. Alors, on essaie de replacer ce personnage dans son contexte, dans cette tourmente que vous avez décrite. Cependant, dans un sous-chapitre intitulé très sobrement « Qui vous donnez la responsabilité ?» La responsabilité, au fond, vous voyez que ce personnage Cochon est au conseil du roi et c'est lui, au fond, le moteur de tout ce procès. C'est lui qui, oui, à l'origine, fera tout.
Oui et non, parce qu'il est quand même l'homme du duc de Bourgogne. Il est l'homme de l'anglais, dans la mesure où il est l'homme du gouvernement anglo-bourguignon. Et derrière lui, il y a Bedford, le régent du royaume, de Henri VI. Mais on est dans le royaume de Henri VI, faut pas dire c'est pas la France. Et Henri VI porte le titre de roi de France et d'Angleterre, France d'abord. Il est certes l'homme de paille, mais attention, ses chefs ne sont pas des médiocres. Vous avez un grand homme de guerre, c'est Warwick, qui va veiller sur le procès pour être sûr qu'on la brûle. Vous avez un grand homme d'État en Angleterre, mais qui est venu en France pour voir un peu ce qui se passait. C'est le cardinal Beaufort, c'est-à-dire le grand-oncle du jeune roi. Et le cardinal Beaufort, c'est un Lancastre, hein, c'est un prince, c'est pas seulement un prince de l'Église. Et le cardinal Beaufort, c'est lui qui, in extremis, va intervenir pour que Cochon cesse de jouer ce jeu qui consiste à essayer qu'elle se désavoue, qu'elle finisse ses jours en prison, donc à jeter des sorts. Vous avez Warwick et Beaufort d'un côté, et puis vous avez à Paris le régent Bedford. Et Bedford, qui est certainement l'un des plus grands hommes d'État que le XVe siècle ait connu en France, je le dis très clairement, avec un autre qu'il ne faut jamais oublier, c'est le grand-duc d'Occident, ce même duc de Bourgogne, qui a été le chef du parti auquel adhérait Cochon, et puis aussi quelques immenses hommes d'État qui s'appellent Charles VII et Louis XI. Ne mettons pas tout du même côté. Mais attention, Bedford, ce n'est pas un prête-nom. Hein. Bedford, c'est un gouvernant. Et le désespoir de Bedford, ça aura été que la Bourgogne le lâche. Parce que là, il se retrouve... Il faut bien voir que dans les années 1420, l'anglais, c'est l'allié du pouvoir à Paris. Qu'à partir de 1435, l'anglais, c'est un occupant. Que la guerre, qui n'avait pas un caractère national, la guerre de Cent Ans, on la globalise, la guerre de Cent Ans. En réalité, jusque dans les années 1400 et même 1410, c'est une affaire de parti l'un contre l'autre. Les barons normands, ils ont la moitié de leur terre en Angleterre, l'autre moitié en Normandie. Leur demandez pas s'ils sont pour un roi, ils ont leurs intérêts et leur vassalité. Tandis qu'à partir des années 1410, l'anglais est vraiment un occupant. Et je voudrais là, à cet égard, insister sur un point. Pendant très longtemps, pas à la fin mais au début, c'est-à-dire dans les années 1410-15, l'anglais dit « je viens récupérer mon héritage ». C'est pas la couronne de France qui pense, pas encore. Non, son héritage, c'est la Normandie, l'Aquitaine, l'Anjou, autrement dit, les terres des Plantagenets, dont il estime avoir été spolié par la conquête de Philippe Auguste et par les campagnes de Saint-Louis. Alors, il faut que vous voyez bien cela, c'est que l'anglais a changé de couleur. Et que l'anglais, qui n'était que l'allié d'un très grand prince des Fleurs de Lys, qu'est le duc de Bourgogne, devient l'ennemi de tout le monde, dès lors qu'il n'a plus cette alliance et qu'il est par conséquent l'occupant auquel on demande de s'en aller. Et vous avez quelque chose de très significatif, le journal du bourgeois de Paris, qui est un des documents les plus extraordinaires que nous ayons pour cette époque. Il y a le vocabulaire du bourgeois de Paris, on ne sait pas qui était ce bourgeois de Paris, c'est à l'évidence plutôt un clerc qu'un bourgeois, et en tout cas certainement quelqu'un d'assez lettré. On l'a dit peut-être un greffier du Parlement, c'est pas sûr. Mais le bourgeois de Paris, en 1420, quand il parle du parti du dauphin Charles qui va devenir Charles VII, il dit les brigands armagnacs, les arminaux, les brigands. 10 ans plus tard, il dit simplement les Armagnacs. Quelques années plus tard, il dit les Français, pour parler des mêmes. Et il est le même homme. Mais il faut bien voir que l'anglais a changé de couleur, et puis que Jeanne d'Arc, en remportant une grande victoire, et en faisant sacrer le roi, Il y est quand même pour beaucoup. Ne surestimons pas le rôle de Jeanne d'Arc. C'est pas elle, le chef des armées. C'est Dunois, mais c'est elle qui leur dit « Mais enfin, qu'est-ce que vous attendez ?» Elle joue le rôle qu'ont joué pendant toutes les campagnes de la Révolution, de l'Empire et même jusqu'à la guerre du 14, le sous-officier qui tient le drapeau devant le régiment. C'est celui qui aurait honte de ne pas être le premier et de ne pas dire aux autres « Suivez-moi ». Il y a devant l'officier, le trompette ou le clairon, et puis le drapeau. Jeanne d'Arc, elle est celle qui leur fait honte. Elle est celle qui dit au roi, mais vous êtes le roi, enfin, secouez-vous. Elle est celle qui, quand les troupes de Charles VII, c'est-à-dire de Dunois, devant Orléans, se demandent s'ils vont monter à l'assaut du rempart, elle leur dit, moi, j'y vais moi. Ça ne s'appelle pas être un chef de guerre. Et elle a certainement poussé à l'action tous ceux qui étaient un tout petit peu assis sur leur position. Et l'affaire de Reims, il ne faut pas non plus exagérer, le duc de Bourgogne, en 1429, avait tous les moyens d'arrêter le voyage à Reims. Tous les moyens d'empêcher Charles VII de gagner Reims. Il s'est écarté pour laisser passer. Là encore, les couleurs avaient changé. Et peut-être l'un des drames de Jeanne, c'est que ce n'est pas une tête politique, elle n'a pas compris ça. Elle continue de croire que le grand ennemi, c'est le duc de Bourgogne, sans penser que son grand ennemi, ça va être le roi d'Angleterre. Mais Jeanne, voyez-vous, pendant le procès, on voit quelque chose qui n'est pas nouveau, on l'avait déjà vu avec le procès des Templiers. Des gens dont le métier n'est pas d'être des intellectuels, n'est pas d'être des juristes ou des théologiens, et auxquels on parle un langage qu'ils ne comprennent pas. Au procès de réhabilitation, certains des anciens juges, ceux qui n'ont pas joué un très grand rôle, qui par conséquent ne peuvent pas dire « moi j'ai tout oublié, je ne sais plus de quoi en parler ». Certains diront « on lui posait des questions trop compliquées pour qu'elle puisse y répondre ». On a voulu la faire s'embrouiller. Je vous disais, on lui pose des questions stupides, et quand on lui pose des bonnes questions, le vocabulaire, c'est le problème des Templiers auxquels on reprochait d'être des idolâtres parce qu'ils avaient dit qu'ils vénéraient une statue. Une statue, ça ne se vénère pas, on ne vénère que Dieu. Une statue, il y a un culte de Dieu et il y a un culte de la statue qui est différent, qui est de notre ordre. Les Templiers sont embrouillés. Bon, Jeanne s'embrouille aussi. Et Jeanne, à un certain moment, dit « mais vous me posez des questions trop compliquées ».
Mais justement, et je reviens là à Pierre Cochon, est-ce que, au fond, vous décrivez très bien le fait que on prend une liberté avec le droit, on a une sorte de compromis dans le cadre de son procès.
Oui, parce que normalement, un prisonnier de guerre, on ne le juge pas.
Voilà, exactement.
Ça se fait pas.
Donc, il y a une sorte de compromis entre l'université, l'inquisition, etc. Et est-ce que Cochon, au fond, n'est pas plus diplomate qu'il n'était juriste et...
Il n'a pas été un grand juriste, il n'a pas été un grand théologien. C'est un grand praticien des choses de l'Église et des choses de l'université. Et incontestablement, il a trouvé sa vocation. Quant au Conseil du roi, il est chargé. On le retrouve au Concile de Constance, on le retrouve au Concile de Bâle, on le retrouve aux négociations d'Arras, et puis on le retrouve, et ça lui a coûté cher au regard de la postérité, on le retrouve dans le rôle de l'évêque qui est chargé de faire la tournée du clergé normand pour aggraver la fiscalité sur le clergé. Et la
lettre
du clergé normand ne lui ont pas pardonné.
Et ce qui lui vaudra une félicitation du pape, Martin V.
Mais exactement. Vous voyez, je n'ai pas voulu, en aucun cas, j'allais dire plaider pour Cochon. L'homme n'est pas défendable. Je n'ai pas voulu l'accuser non plus, parce qu'il faut le comprendre. Le travail d'un historien
n'est pas de juger.
Ça n'est ni le travail d'un procureur, ni le travail d'un avocat, c'est d'essayer de comprendre. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, ce n'est pas... Bon, vous l'avez raison, tout à l'heure, vous avez parlé d'anachronisme. Il est certain que juger les comportements d'un cochon au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme, bon, c'est d'une grande stupidité. Il faut bien le savoir, à cette époque-là, on brûle plus facilement une sorcière qu'aujourd'hui, on enverrait en prison quelqu'un pour avoir dit des grossièretés. Mais j'ai voulu montrer qu'il n'était pas le fruit du hasard, il était le fruit d'un enchaînement collectif. Et que par conséquent, si on ne comprenait pas ça, on ne comprenait pas son rôle, on ne comprenait pas le personnage, alors ce qui a fait beaucoup pour ça à la postérité contre lui, c'est aussi son nom. Ça n'a jamais voulu dire un animal. À l'époque, cochon, on ne sait pas ce que ça voulait dire. Mais jamais on a appelé le porc cochon à l'époque. C'est plus tard qu'on appelle le porc cochon. Non, d'ailleurs, à cette époque-là, quand un Nicolas Poilvillain trouve que c'est pas beau, c'est un des très grands théologiens de son temps, il préfère s'appeler Nicolas de Clamange, cochon aurait pu changer de nom comme il voulait. Ça n'était pas désobligeant. Mais au regard du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle, il était voué à être un salopard, si je puis dire, parce qu'il était déjà un cochon. Et le sommet est atteint quand Paul Claudel lui fait dire « nominor porcus, je m'appelle le cochon ». Celui qui a vu les choses avec le plus de lucidité, me semble-t-il, dans la littérature contemporaine, c'est Jean Anouilh dans L'Alouette, où il y a une vision très juste, j'allais dire, des problèmes d'un cochon, les problèmes que lui pose la situation et les problèmes qu'il a fabriqués. Parce que vous lisiez, c'est un diplomate, il fait un peu tout, c'est quand même lui qui a négocié l'achat de Jeanne d'Arc par les Anglais. Mais la situation de Jeanne était fausse. Un prisonnier de guerre, on le rançonne. Bon, elle n'est pas un duc, elle n'est pas un comte, on ne va pas la rançonner. Un prisonnier de guerre, ça ne se juge pas. Si on ne l'a pas tué, et d'autre part, la prison perpétuelle, il faut être hérétique pour ça. Ce n'est pas pour avoir fait la guerre qu'on va en prison perpétuelle. Alors, ils ont été obligés d'improviser. Et il faut bien dire que Cochon, qui était, ça je le dis clairement, bien qu'ayant juré de ne pas être un accusateur, c'est quand même un arriviste. Et Cochon a bien vu là une occasion de se faire valoir.
Est-ce qu'à un moment, vous avez un mot assez dur? Je dis dur parce que vous le présentez vraiment comme un bon diplomate, mais d'un autre côté, vous dites qu'il est un peu médiocre. Ce n'est pas le grand théologien, ce n'est pas le grand juriste.
Ah non, ça n'est nullement le grand théologien. Le plus grand théologien de l'époque, c'est Gerson, sans le moindre doute. Et Gerson ne tombe pas dans ces affaires-là, mais s'affronte avec le milieu de Cochon. Mais Gerson, pour lui, l'essentiel de sa vie, c'est d'être curé de Saint-Jean-en-Grève, c'est-à-dire l'église qui est derrière l'hôtel de ville à Paris, et d'y faire son métier de curé, c'est-à-dire de prêcher. Et il est le plus grand prédicateur de son temps. Vous avez des grands théologiens, vous avez Pierre Dailly qui finira cardinal. Lui, Cochon, n'a jamais prétendu être ni un grand juriste, ni un grand théologien, mais il sait assez de droit pour ne pas commettre d'erreur de la procédure. Voyez-vous, ce qu'on lui demande là, c'est pas de poser des principes de droit, il n'y en a pas. Ils improvisent, mais la procédure, on ne l'invente pas. Donc Cochon sait très bien que le seul moyen pour lui d'avoir eu raison, c'est-à-dire que Dieu ne l'ait pas désavoué, c'est qu'elle dise qu'elle a menti. Ça, il le comprend très bien, et c'est tout sans faire de l'os. Et puis, dans le même temps, l'Anglais dit, mais on veut que tu aies moi cette fille-là, parce que c'est une sorcière. Cochon sait qu'elle n'est pas sorcière. Il ne l'accuse pas de sorcellerie. Il l'accuse d'avoir inventé un trafic verbal, un trafic spirituel, avec Dieu directement, et un trafic verbal avec des saints, des anges, etc. Là, je veux quand même vous rappeler un fait qui n'est pas unique dans l'histoire. Les clercs détestent le chrétien laïque qui s'entretient directement avec Dieu.
Est-ce que vous avez décrit au début de cette émission toute l'importance de cette université qui, dans la tourmente précisément, est là pour apporter un certain nombre de conseils et pour éclairer les princes? Est-ce que ce procès de Jeanne ne constitue pas le point de non-retour d'une université en déclin en ce début du XVe?
L'apogée de la médiocrité intellectuelle. Ils ne pensent plus qu'à une seule chose, sauvegarder leurs privilèges. Nos privilèges, ils en écrivent tôt, pas plusieurs fois par an. Ils vont au Parlement de Paris pour leurs privilèges. Ils attaquent le Châtelet pour leurs privilèges. Ils interviennent auprès du roi pour leurs privilèges. Et la dernière fois qu'ils le feront, c'est le jour où le jeune roi qui vient d'être sacré, le jeune Louis XI, fait son entrée dans Paris. Ils sont là à leur place hiérarchique, naturellement. Et sire, nos privilèges. Et Louis XI les regarde de haut, si je puis dire, parce qu'il n'est pas très grand, mais les regarde avec un mépris profond. Et il leur dit, vous ne méritez pas que je m'occupe de vous. Et ça, c'est maintenant, l'université est au plus bas. Seulement, dans le même temps, eh bien, un certain nombre de jeunes sont en train de se préparer à prendre la relève. Et vous allez voir, seulement 40 ans après la mort de Jeanne d'Arc, la grande technologie nouvelle du temps, l'imprimerie, où s'établit-elle? À Paris.
À Paris, oui.
En Sorbonne. Mmh. En Sorbonne. Où sont les grands humanistes du temps quand ils viennent à Paris? Pic de la Mirandole, Erasme, en Sorbonne. Où trouvez-vous Robert Gaguin, sinon dans l'université? Et puis, ils correspondent avec Florence, etc. Donc, vous avez une nouvelle université, beaucoup plus teintée d'humanisme, qui surgit à partir des années 1460-70. Donc, au moment du procès de Jeanne d'Arc et les années qui suivent, l'université de Paris est au plus bas. Elle est engluée dans la médiocrité intellectuelle. Il n'y a plus de grands enjeux. Peut-être d'ailleurs parce qu'ils ont été déjà un peu épuisés. Mais on ne se bat plus pour savoir si les choses ont une réalité collective ou si elles ont une réalité individuelle. C'est la querelle des universaux. On ne se bat plus pour savoir si on peut concilier la foi et la raison, ce qui était l'aristotélisme chrétien de Thomas d'Aquin. On ne se bat plus pour savoir, même en droit. On va se battre. Les derniers grands combats juridiques de l'Église, c'est le combat. Est-ce que le pape est supérieur au concile ou est-ce que le concile est supérieur au pape? Et finalement, c'est de facto qu'on va résoudre le problème. Quand le concile finit par déposer le pape, et puis le concile suivant en débattra longtemps, mais en débattra dans de telles conditions qu'il se déconsidérera. Alors vous avez donc là, la dernière grande querelle qui anime l'université, c'est une querelle purement politique. L'université, en voulant, je serais tenté de dire en voulant en acceptant, jouer un rôle qui n'était pas le sien, à partir des années 1378, d'où mon point de départ dans mon livre, comment on devient un juge de Jeanne, c'est parce qu'on est dans un milieu qui s'est englué dans des affaires qui n'étaient pas les leurs. Ces gens-là sont des gens auxquels on demande maintenant de voter. Ils ont voté à bulletin. Mais ils ont voté, puisque les bulletins, nous les avons, j'en ai même publié quelques-uns en photographie. Ils ont voté avec des votes explicatifs. Explication de vote, ça n'a pas été inventé à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et j'ai publié le bulletin de vote de Pierre Cochon. Et il y a 15 lignes d'explication de son vote. C'était très nouveau tout cela. Et naturellement, la tête leur tourne. Elle leur tournerait moins s'il y avait un roi de France qui n'était pas fou. Elle leur tournerait moins s'il y avait un roi de France qui est anglais. Elle leur tournerait moins si l'administration de Bedford en France, ce sont des Français, mais son armée, ce sont des Anglais. Voyez-vous, dans les premières périodes de la guerre de Cent Ans, quand l'Anglais venait en France, il arrivait avec une armée qui était formée du Captal de Buch et de ses Gascons. Eh oui, c'était l'armée du duc d'Aquitaine. Tandis que maintenant, ce sont des Anglais du Sussex, des Anglais de l'Angleterre profonde, c'est-à-dire des adversaires, des ennemis, des occupants. C'est très nouveau. La querelle de la guerre de Cent Ans, qui jusqu'au temps, il faut bien le dire, de Charles V, est une affaire d'héritage d'un grand féodal qui se trouve par ailleurs être roi, c'est ce qui a toujours compliqué l'histoire des Plantagenets. C'est être vassal de roi de France quand on est roi de l'autre côté de la Manche. C'est intenable comme situation. Et la situation du roi de France n'est pas meilleure. Avoir un vassal qui par ailleurs a une couronne royale. Eh bien, ça c'est fini. Maintenant, l'Anglais est un occupant et par conséquent, Cochon va devenir, pour la postérité, le modèle, le parangon du traître. Alors ajoutez-y les considérations et les arrière-plans politiques du 19e et du 20e siècle. Et il devient le prototype de l'homme méprisable parce qu'il a trahi. Alors quand Jeanne d'Arc est béatifiée, puis canonisée, il est à la fois traître à l'Église et à la France. Ne vous étonnez pas si on s'est servi parfois de cette histoire au moment où, pendant l'occupation, la haine de l'Anglais animait un certain nombre de gens.
Alors vous reprenez précisément dans votre épilogue, dans votre conclusion, cette postérité à la fois littéraire...
Jusqu'au cinéma.
Effectivement, il y a une image qui est celle du film de Luc Besson, autant l'image de Jeanne, cette sorte de Jeanne prise dans sa conscience, engluée dans une conscience qui est incarnée, si mes souvenirs sont bons, par Hoffman, Dustin Hoffman. En revanche, vous trouvez que le Pierre Cochon de Besson est assez fidèle en tous les
il
cas.
Il est assez fidèle, nuancé. Il a compris le personnage. Alors, ce qui ne va pas dans le cinéma, et ça c'est inhérent au cinéma, certainement pas en faire un grief, c'est qu'il faut sortir le personnage de son ensemble. Il faut qu'il soit le personnage. Et par conséquent, les autres ne sont vraiment que l'arrière-plan. C'est un peu dommage, mais les autres sont à l'arrière-plan. Et donc, Cochon porte à lui seul tout le poids du péché. Ce qui, je vous le répète, s'accentue avec des réactions soit anticléricales, soit au contraire très cléricales, qui sont celles de la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Il est évident qu'à certains moments, certains se trouvent bien de ce que le vilain traître soit en même temps un évêque. Et en même temps, l'Église dit « Non, il n'est même pas digne d'être évêque, on n'en parle pas. » Surtout, un voile là-dessus, on béatifie Jeanne d'Arc, donc elle a compris.
Peut-être une question, et on terminera sur cette image. Je pense que cette image vous tiendra à cœur. Vous écrivez « Si les maîtres n'avaient été que des professeurs, en aurait-on fait des juges ?» Permettez-moi d'inverser la question. Et au fond, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on écoute assez peu les maîtres. En revanche, les juges, on les écoute, et notamment les juges sur l'histoire.
C'est bien vrai, mais n'oubliez pas que les juges sont des intellectuels et les maîtres des intellectuels. J'ai entendu autrefois un archevêque qui disait « on ne gouverne pas les clercs ».
Eh bien, merci Jean-Favier d'être venu au micro de Canal Academy pour évoquer ce personnage si controversé, Pierre Cochon. « Comment on devient le juge de Jeanne d'Arc », un livre que vous avez publié aux éditions Fayard. Et je renvoie nos auditeurs aux nombreuses émissions que nous avons pu enregistrer ensemble. Merci beaucoup.
Merci de votre accueil.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'Histoire.